religieuse, aujourd'hui et demain. En compagnie de Mathieu Lavigne et de ses invités.
Bonjour à vous, ici Mathieu Lavigne au micro de Vie religieuse, aujourd'hui et demain, un rendez-vous hebdomadaire proposé par la Conférence religieuse canadienne. Chaque semaine, nous vous présentons des entrevues et des témoignages de sœurs, frères, prêtres et de laïcs qui s'expriment sur des thématiques liées à la vie de l'Église et des communautés religieuses canadiennes, sur leurs engagements actuels et sur les espoirs qu'ils et elles portent pour la société de demain. Mon invité cette semaine est entré il y a tout juste un an dans la cathédrale du diocèse de Saint-Hyacinthe en tant que prêtre pour en sortir évêque quelques heures plus tard. En effet, le 17 septembre 2017, pas moins de 1600 personnes assistaient à l'ordination épiscopale de Christian Rodembourg à titre de nouvel évêque de Saint-Hyacinthe. Né à Bruxelles en 1959, Mgr Rodembourg a rejoint la Société des missionnaires des saints apôtres en 1989 et a été ordonné prêtre en 1995 après avoir complété ses études en théologie à Montréal. Mgr Rodembourg a été pendant 22 ans curé dans diverses paroisses du diocèse de Saint-Jean-Longueuil et durant 4 ans, curé de la co-cathédrale Saint-Antoine de Padoue, toujours dans ce même diocèse. Il a également été assistant général et responsable de la formation des missionnaires des saints apôtres, de même que directeur littéraire pour les éditions Saint-Paul à Paris. Mgr Christian Rodembourg a publié 2 ouvrages aux éditions Nouvelle Cité. Un premier, intitulé « Prier 15 jours avec le père Eusèbe-Henri Ménard, fondateur de la Société des missionnaires des saints apôtres », et un second titre, « Une vie offerte, 120 citations », inspiré du père Eusèbe-Henri Ménard. Précisons que Mgr Rodembourg est également le président de la Fondation canadienne de la vidéo religieuse. Mgr Rodembourg a donc accepté de nous rencontrer aujourd'hui et ensemble, nous parlerons de sa foi, de son ministère d'évêque et de sa vision de l'Église. Mgr Christian Rodembourg, bonjour et merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour.
Alors, Mgr Rodembourg, vous faites partie de la Société des missionnaires des saints apôtres. Pourquoi avoir décidé de joindre cette société plutôt qu'une autre?
Je dirais que c'est une découverte progressive que j'ai faite dans l'histoire de ma vie. Et quand j'ai découvert cette communauté qu'on pourrait dire jeune et nouvelle, puisqu'elle est fondée en 1946, je me suis beaucoup intéressé au charisme. Et c'est un charisme qui me plaisait dans le sens suivant, c'est que j'avais remarqué dans l'article 1er des constitutions qu'il y avait une très grande place déjà laissée à la formation, l'accueil, l'accompagnement des vocations, le discernement, la formation, mais aussi, c'était pas réservé aux religieux, mais aussi ouvert aux laïcs engagés en Église. Et j'ai découvert progressivement, par certains dialogues avec l'un ou l'autre des pères membres de cette communauté, qu'il y avait cet esprit d'ouverture par le fondateur, bien avant le Concile Vatican II, sur la place des laïcs en Église. Et ça me touchait beaucoup. Je dirais que c'est un des éléments que je pourrais donner en réponse à cette question.
Oui. Et est-ce que vous diriez que le fondateur des missionnaires des saints apôtres, le père Eusèbe-Henri Ménard, un prêtre québécois, franciscain, Beauceron, a changé votre vie?
Je dirais qu'il a marqué ma vie. Oui. Est-ce qu'il a changé? Je dirais probablement aussi, mais avec d'autres. Parce que ça, dans le discernement d'une vocation, c'est sûr, il y a plusieurs personnes, il y a plusieurs événements qui peuvent nous marquer, moi qui m'ont marqué effectivement.
Et comment est-ce que vous avez reçu et vécu l'appel à la vie consacrée?
Voilà, ça c'est un long chemin de vie. Je suis né dans une famille catholique très engagée. Papa et maman sont nés dans les années 20 et ils étaient des chrétiens très engagés en paroisse. Pour vous donner un exemple, ma mère à l'âge de 18 ans, dans cette génération-là, était ce qu'on appelait catéchète en paroisse. Donc c'est dire déjà la marque aussi familiale d'engagement en Église. C'est sûr, comme je disais un instant, il y a des personnes que j'ai rencontrées dans le scoutisme à l'école, dans les mouvements eucharistiques des jeunes, des prêtres qui m'ont marqué aussi, des moines, des moniales. Et tout ça fait un peu, je pense, la base ou le berceau de ma vocation. Mmh. Et en même temps, j'ai pris mon temps. Je croyais important d'être engagé dans le monde et la société. Oui. Et jusqu'à 30 ans, c'est ce que j'ai fait, étant entre autres jeune éditeur à Paris pendant plusieurs années, et proche du monde un peu des médias, donc par le fait même.
Oui. Pourquoi vous avez accepté l'invitation aujourd'hui? Vous êtes sensible à cette dimension-là.
J'aime beaucoup la communication.
Oui.
Et pour moi, c'est un moyen essentiel aujourd'hui de rentrer en communication avec le peuple de Dieu. Et par les médias, que ce soit Facebook, que ce soit Twitter, que ce soit les sites web, que ce soit la radio, la télévision, et je dirais même plus les capsules. Mm-hmm. Pour moi, je crois que c'est un des moyens à déployer en Église.
La vidéo.
La vidéo, par mm-hmm. exemple, oui. Pour ne pas faire trop de publicité.
Oui, oui.
Mais nous l'aimons.
Oui. Et vous avez évoqué votre mère, je trouvais ça très, très beau. Déjà, impliquer une laïque, donc engagée, et les missionnaires des saints apôtres valorisent la place des laïcs en Église. Ils travaillent en fait à l'accompagnement des vocations et des laïcs engagés en Église. Alors, j'ai goût de vous demander, quelle est votre conception du rôle des laïcs en Église?
Quand on regarde en vérité l'histoire de l'humanité, la majorité des gens, ce sont des laïcs, c'est des hommes et des femmes qui nous ressemblent. Mmh. C'est ma première réponse, c'est la majorité du peuple de Dieu. Je regarde, je rentre de Dublin, où on était 35 000 membres à cette rencontre des familles, avec le pape François, 6 000 jeunes étaient là, et on était quelques évêques, quelques prêtres, ça c'est sûr, des diacres, ça. Mais la majorité du peuple de Dieu, c'est des hommes et des femmes qui nous ressemblent. Alors pour moi, leur place est essentielle dans l'Église. Et pour vous donner un simple exemple, dans la pastorale, pendant 22 ans comme curé, j'avais toujours à côté, comme collaboratrice principale, une femme. Je demandais ça toujours à mes évêques. J'aime l'idée d'avoir une collaboratrice laïque mmh. engagée en Église, parce qu'il y a une complémentarité de regard, d'observation, de vécu, etc. Il y a une richesse incroyable. Donc, les hommes et les femmes sont co-responsables oui. de l'annonce de l'Évangile. Et si chacun prend sa place et ça porte cette mission d'annonce de la bonne nouvelle de Jésus, je pense qu'on va faire un sacré bon bout de chemin. Je suis très heureux de voir d'ailleurs que ces dernières années dans l'Église, beaucoup sont sensibles à ce point de vue-là. Mmh. Mais mon fondateur, le père Ménard, avait déjà compris ça très jeune, puisque la communauté était fondée en partenariat avec un homme d'affaires, un laïc oui. engagé, M. Hector Durand. C'est extraordinaire, bien avant Vatican II, je dirais, cet esprit de place aux laïcs, en fait.
Oui.
Et moi, alors ça, c'est un des fruits du père Ménard. Mmh. Aussi, mais pas oui. seulement.
Un des nombreux fruits. Et Monseigneur Christian Rodembourg, comment est-ce que vous qualifieriez votre spiritualité, votre foi, votre vie intérieure?
Ma phrase clé, c'est l'enracinement dans le cœur de Dieu. J'y reviens tout le temps, je dis c'est important, et ça vient de saint François d'Assise, hein, c'est déposer dans le cœur de Dieu sa vie, toutes les facettes de sa vie, sans hésiter. Et à partir de ce moment-là, et c'est là ma spiritualité, c'est que le souffle de l'amour de Dieu va pouvoir me guider, m'inspirer, mais nous guider, nous inspirer. Ce que je dis là est valable pour tout être humain. Mmh. Déposer toute sa vie dans le cœur de Dieu, ses joies, ses peines, ses souffrances, ses questions, tout, sans hésiter. Alors c'est mon cheval de bataille, j'allais dire. J'ajouterais simplement ceci, très marqué par saint François d'Assise et sainte Claire, c'est sûr, et aussi ces dimensions monastiques et contemplatives. On pourrait déployer, ça prendrait une autre émission.
Oui. Et est-ce que vous avez le temps, avec votre ministère d'évêque, de pratiquer la contemplation? Est-ce que vous avez le temps de le
faire? La contemplation, ça se vit dans le quotidien. Ça se vit... je regarde ces jours-ci à Dublin. Je parcourais un peu certains paysages pour me mmh. rendre à certains endroits. Et je regardais la ville, je regardais la campagne autour. La contemplation, c'est parfois s'arrêter simplement 2-3 minutes dans sa marche et observer la beauté de la création, tout simplement, qui nous entoure. Et observer la beauté de la création, c'est observer aussi l'être humain. Ça dit mes frères et sœurs en humanité. Nous sommes tous visages de Dieu. Donc contempler ses frères et sœurs en humanité, comme je le fais dans le studio actuellement, mm-hmm. c'est exactement la même chose. C'est ça la beauté de la création de Dieu aussi. Et c'est ça être contemplatif quelque part aussi. C'est pas que ça, c'est sûr.
C'est intéressant cet aspect de la contemplation et le, je dirais peut-être un paradoxe, mais ça n'est peut-être pas un, avec ce que votre frère disait de votre vie spirituelle enfant, comme quoi elle était grouillante, il fallait que ça bouge, très engagée entre autres dans le mouvement eucharistique des jeunes, donc contemplation, mais aussi action.
Tout à fait. Je pense qu'au début, quand j'étais jeune, je pensais peut-être que je serais devenu moine trappiste parce qu'il y avait une abbaye que j'aimais beaucoup en Belgique qui produisait de la bière, du fromage et du pain. Alors je me disais, c'est peut-être ça ma vocation. Mais le Seigneur m'a fait comprendre très vite à travers la vie qu'il y avait peut-être d'autres attentes à mon égard. Alors voilà, non, action-contemplation, c'est les deux poumons qui animent ma vie. Mmh. Mais c'est relié, vous savez. Oui. Si je veux une action signifiante, il faut que je sois aussi en état de prière, oui. d'accueil de la parole de Dieu, du souffle de l'Esprit. Alors c'est une mission de longue haleine. Oui. Et que je découvre progressivement dans ma vie. On m'aurait dit, à 30 ans, je serais ici avec vous ce matin. Ben non, j'aurais pas cru ça, ni que j'habiterais au Canada. Mmh. Donc oui. voilà, c'est être à l'écoute de Dieu, c'est ça aussi. C'est de dire, peut-être des portes se ferment, d'autres s'ouvrent. Et à un moment donné, quand on dépose sa vie dans le cœur de Dieu, j'y reviens, tout d'un coup, on vit des choses au-delà, et je le dis, au-delà de nos espérances, de nos désirs. Mm-hmm. Mais ça prend une foi ouais. probablement très grande, mm-hmm. et je ne dis pas que c'est facile du tout.
Ouais. Comment se passe la cohabitation entre le missionnaire et l'évêque que vous êtes? Est-ce que votre conception et votre manière de vivre la mission a changé depuis que vous êtes devenu évêque du diocèse de Saint-Hyacinthe?
Je pense qu'elle se déploie différemment, évidemment, par la responsabilité nouvelle qui m'est confiée. Mais par contre, je dirais qu'il y a une continuité aussi, parce que toute ma vie est reliée. Et ça aussi, c'est fabuleux quand je commence à la relire. Je me dis, mais le Seigneur m'a fait vivre des expériences en Belgique, en France, au niveau européen, etc. Avec les rencontres européennes de Thésée, par exemple. Et aujourd'hui, depuis 29 ans, que je suis au Québec à travers mon expérience d'étudiant ici, ensuite de curé en paroisse, de missionnaire dans la communauté en service les dernières années, effectivement, en service de la communauté au niveau international. Alors, c'est sûr que tout ça fait la personne que je suis devenu aujourd'hui, et je suis un évêque missionnaire, et la mission, c'est pas seulement à l'étranger, n'est-ce pas? C'est ici même, au cœur de l'humanité, où nous nous trouvons.
Mm-hmm. Monseigneur Rodenbourg, vous avez décidé de placer le mot « tendresse » au centre de votre ministère. D'ailleurs, votre devise épiscopale se lit ainsi « dans ton immense tendresse ». Donc, des mots qui sont tirés du livre du prophète Néhémie. À la suite du pape François, vous dites que nous sommes même conviés à une révolution de la tendresse. Alors, pourquoi insister sur ce mot? Quelle résonance, quel sens a ce mot pour vous?
D'abord, je dois vous dire que c'est une paroissienne de ma première paroisse où j'étais curé qui m'a fait la remarque, Christian, tu utilises souvent le mot tendresse. Mmh. Je suis très heureux de ça. Et effectivement, ça m'a allumé, ça m'a fait prendre conscience que oui, elle a raison, à un tel point qu'à un repas de famille, elle m'avait fait un petit verre où elle avait peint dessus le mot tendresse mmh. et elle me l'avait offert.
Oui.
Et effectivement, ça marque tout mon ministère parce que je trouve qu'on est dans un monde qui manque de tendresse. On est dans un monde agressant, agressif. Où on a beaucoup de difficultés d'accueillir l'autre dans la différence, d'accueillir l'autre dans ses originalités, d'accueillir l'autre dans ses fragilités, d'accueillir l'autre dans ses beautés. Alors, on est dans un monde de compétition, on est dans un monde souffrant en réalité, hein, quand on regarde l'actualité mondiale. Alors, tout au long de mon ministère de prêtre, j'ai déployé ce mot tendresse qui vient, en fait, pour ma devise du prophète Néhémie, c'est vrai, mais qui vient, en fait, de l'attitude du Christ lui-même. Et c'est là encore une fois que je reviens sur l'importance de déposer sa vie dans le cœur de Dieu, parce qu'on va découvrir l'importance de cette tendresse divine, de cette providence divine, du souffle de l'amour de Dieu qui nous envahit, qui nous guide et qui fait de nous peut-être des femmes et des hommes accomplis dans cette immense tendresse de Dieu. Alors une révolution de la tendresse, le pape revient là-dessus dans la joie de l'évangile, dans plusieurs textes et livres. Il y a un des derniers livres que je viens de lire de lui, Dieu est jeune, il en parle. Je crois que le pape lui-même, par toutes ses attitudes, on voit la tendresse qu'il dégage, par les gestes qu'il pose, le regard qu'il pose, cette facilité qu'il a de communiquer avec toute personne qu'il croit sur sa route. Ça se voyait encore l'autre jour à Dublin.
Oui.
Alors je crois que c'est une révolution dont l'humanité a besoin.
Mm-hmm.
Et j'espère y collaborer humblement à ma mesure, mais que chacun de nous y collabore.
Oui.
Parce que nous sommes co-responsables. Il y a une réciprocité laïque-prêtre, chrétien, homme et femme engagés en Église. Il y a une complémentarité, il y a donc une co-responsabilité dans ce message sur la tendresse de Dieu.
Le papa que je suis n'a pas pu s'empêcher de remarquer que vous accordez une grande importance au couple et à la famille. Vous avez d'ailleurs été conseiller spirituel pour les équipes Notre-Dame du Canada. Pourquoi cette importance accordée au couple et à la famille?
Je rends grâce à Dieu par la famille dans laquelle je suis né. Je crois que c'est là que s'enracine déjà la réponse à votre question. C'est, je rends grâce à Dieu d'avoir eu le père et la mère que j'ai eu, avec leur fragilité, avec leurs limites et tout, hein, soyons honnêtes. Mais j'ai vu un couple qui a vécu 67 ans et plus ensemble, et qui, malgré les hauts et les bas, comme tout le monde, a gardé le cap de l'amour, de la tendresse et de la présence, j'allais dire, au monde et à la société. Alors, je dirais, c'est une des premières raisons. Cet héritage a marqué ma vie et m'a beaucoup fait prendre conscience de l'importance des couples et des familles. C'est pour ça que je suis très engagé depuis jeune prêtre, depuis 23 ans, auprès des familles et des couples, dans mes paroisses, mais aussi par les équipes Notre-Dame, par les week-ends amoureux que j'animais pendant 6 ans, sur l'importance de la communication, du dialogue, et également, évidemment, maintenant, et faisant partie depuis quelques semaines de l'OCVF, qui est un organisme catholique vie et famille. Je suis très heureux de ça, parce que ça me permet, là encore, de rester connecté à tous les enjeux et défis de nos familles dans le monde d'aujourd'hui.
La Société des missionnaires des Saints Apôtres travaille à l'accompagnement des vocations. Comment, depuis votre entrée au sein de cette société en 1989, a changé cet accompagnement et le travail pour susciter l'émergence de nouvelles vocations?
Notre communauté est internationale. On est dans 10 pays. On est en Asie, Vietnam, Indonésie. Je ne sais pas si vous réalisez les enjeux du Vietnam, pays communiste, l'Indonésie, pays musulman. Nous avons là deux groupes de frères très engagés en Église. C'est sûr que la dimension vocationnelle dans ces pays-là est très différente de l'expérience du Québec, par exemple, où il y a très peu de vocations. A contrario, là-bas, il y en a beaucoup. Il y a des choses à regarder là, il y a une évolution qui se passe, effectivement, c'est quasi impossible d'en faire le bilan ensemble ce matin, mais je soulignerai l'importance d'être attentif au milieu, aux cultures, aux origines différentes de nos frères et de nos sœurs, et de favoriser une pastorale vocationnelle en harmonie avec la réalité historique, culturelle et sociologique, j'allais dire, et sociale là où on est. Et je crois qu'au Québec, il y a beaucoup d'espérance. Et arrêtons de calculer en chiffres et en nombres. Vous savez, ce qui me préoccupe, c'est pas le nombre. Il peut y avoir une vocation, il peut y en avoir deux, il peut y en avoir cinq. 50, 500, le grand enjeu, c'est pas le nombre. C'est est-ce que celui ou celle qui choisit de suivre le Christ fonce avec toute la beauté et les limites de sa personnalité et dépose sa vie dans le cœur de Dieu pour suivre là où le Seigneur veut l'envoyer. Ça, c'est un des grands enjeux. Alors, le nombre ne me préoccupe pas.
Oui. Et vous avez évoqué justement l'Indonésie, vous avez évoqué le Vietnam, et ce sont des pays que vous avez visités au cours des 10 dernières années. En fait, vous avez visité 9 pays en effectuant plusieurs voyages missionnaires. Votre frère aîné dit d'ailleurs de vous qu'elle est à la rencontre de l'autre, particulièrement de l'étranger, est carrément inscrit dans votre ADN. Qu'est-ce que ces multiples voyages vous ont apporté? Comment aller à la rencontre de l'autre? Comment la rencontre de l'altérité vous a transformé?
C'est un cadeau du ciel que je ne pensais jamais vivre de cette manière-là, mais je rends grâce à Dieu parce que ça m'a justement ouvert les horizons. Ça m'a ouvert le cœur et l'esprit.
Mmh.
Et ça m'a fait prendre conscience que mon expérience est belle, certes, elle est unique aussi, mais qu'il y en a une variété d'autres à travers l'humanité. Quand je vois mes frères du Cameroun ou du Congo, ou du Brésil, ou du Venezuela actuellement, ou du Pérou, de Colombie, etc., je me dis, mais c'est extraordinaire, eux aussi, leur expérience de vie. Donc là, il y a une ouverture de cœur Je me souviens de mon papa qui me disait quand j'étais jeune, Christian, n'oublie jamais que là où on est né, il se fait qu'on est né dans un pays où on est catholique. Mais tu sais, on aurait pu naître à 150 km, on aurait probablement été luthérien, un peu plus loin orthodoxe, un peu plus loin peut-être bouddhiste, un peu plus loin au sud juif, ou un peu plus loin encore musulman, etc. Et il me disait, garde ton cœur ouvert à la rencontre de l'autre différent. Et ça, c'est une éducation que j'ai reçue enfant. Mmh. Comment ça peut ne pas me marquer oui. dans ma vie aujourd'hui ? Et ma joie, c'est de voir ma communauté, justement, qui est dans 10 pays, et de voir mon église, parce que moi, je fais partie d'une église, d'un diocèse, maintenant, depuis un an, grâce au pape François, et je m'émerveille de voir toute la diversité culturelle que je rencontre dans la cathédrale et dans les paroisses que je visite, dans les communautés que je visite, dans tous les laïcs que je rencontre, c'est de voir cette beauté. Hier soir, on ouvrait l'année pastorale à Saint-Hyacinthe et c'était une chorale latino-américaine qui accueillait les gens dans le portique de la cathédrale d'or. Il faisait beau, avec des chants, de la danse, de la fête, et à la sortie aussi. Et après ça, il y avait une grande célébration d'ouverture pastorale, de l'année pastorale, où des centaines de chrétiens se sont retrouvés. On a écouté le témoignage de 2 personnes qui ont été au congrès en Amérique latine, au congrès de cet été qu'il y a eu là. Et donc, oui, c'est un état d'esprit qui m'anime personnellement, cette ouverture à l'humanité, au monde. Et c'est sûr que ça va donner des couleurs à mon ministère d'évêque.
Oui, et ça doit teindre votre réflexion sur la question des migrants, notamment.
Absolument. Et alors, c'est sûr qu'il y a des enjeux difficiles. Hein. Il ne faut pas dire que c'est facile. Loin de là, c'est exigeant, ce n'est pas facile. Mais il y a tout un défi d'accueil. Et je vois plusieurs communautés, entre autres à Sorel, quelqu'un me partageait ça hier, qu'ils ont un souci d'accueil de qualité. Que les gens se sentent reçus. Oui. Bien, appuyé, guidé. Et je crois que c'est la même chose quand je visitais les pays à travers le monde. Je me sentais très bien reçu. Quand je suis allé en Indonésie ou au Vietnam, je ne connaissais rien. Mes petits frères m'ont bien reçu. Ils ont été attentifs à ce que je sois bien. Eh bien, je vis la même chose. Je voudrais qu'on fasse la même chose à l'égard de frères et sœurs en humanité qui n'ont pas choisi, vous savez, cette souffrance qu'ils vivent. Je crois qu'ils ont une soif de paix, d'accueil, oui, de vie de qualité, de s'enraciner. Alors, bon, la réussite n'est pas toujours là, il faut le reconnaître, mais c'est ensemble, en se mettant laïcs, prêtres et tous ensemble, que nous pouvons, comme frères et sœurs chrétiens, être, je pense, des signes de la tendresse de Dieu dans cet accueil du migrant.
Oui. Et tout récemment, vous célébriez le premier anniversaire de votre ordination comme évêque du diocèse de Saint-Hyacinthe. Qu'est-ce que vous retenez de cette première année? Est-ce qu'il y a un mot qui pourrait résumer cette première année?
Très court, 4 lettres. Joie. Joie d'être en service, joie de la rencontre de l'autre, joie de la rencontre des nouveaux enjeux, des nouveaux défis qui me sont évidemment proposés, joie de voir aussi la diversité de ce diocèse dans lequel je suis, qui va de Sorel-Tracy aux frontières américaines, lac Champlain, qui traverse des champs, qui traverse des collines, des petites montagnes, des lacs, etc., des rivières, de voir cette diversité de population au-delà de 400 000 habitants dans le diocèse. J'ai fait 22 000 km en 9 mois pour visiter les gens, les personnes, être avec eux, proche du peuple de Dieu. Alors que c'est extraordinaire, c'est une joie intense.
Oui.
Alors joie, c'est le plus beau des mots.
Oui. Et quel est le plus grand défi pour un jeune évêque? Vous avez évoqué le mot défi. Pour un jeune évêque, est-ce qu'il y a un défi particulier?
Si vous me parlez vraiment personnellement, le grand défi, vous allez peut-être sourire, c'est que je prenne ma journée de congé de temps en temps. Parce que je ne la prends pas beaucoup.
Oui.
Et j'aime tellement mes collaborateurs, collaboratrices, qui reviennent là-dessus régulièrement en me disant, Père Christian, vous avez aussi droit à prendre une petite halte. Alors, mon grand défi va être là. C'est étonnant de vous donner ça comme réponse.
Mais mettre le frein une fois de temps en temps.
Mais voilà. Mais moi, je suis un gars qui aime dire oui.
Oui.
Je dis oui. Avec l'espérance que le Seigneur me donne le talent, l'énergie, le cœur, la joie. J'aime ce que je vis.
Oui.
Vous savez, je suis un homme heureux.
Oui, ça paraît.
Je suis un prêtre heureux. Et je dois le dire, depuis quelques mois, Je suis un évêque heureux, heureux de cette église que je découvre, que je ne connaissais pas ou peu, et de voir la qualité de l'accueil, de la vie fraternelle, de la joie qui se dégage aussi dans le centre diocésain. C'est extraordinaire de voir le dynamisme, l'interaction. Alors voilà.
Il nous reste une minute et j'ai goût de vous poser une question plus personnelle. J'ai goût de vous demander, est-ce qu'il y a un livre dans votre vie qui vous a marqué? Un livre, votre bibliothèque brûle, quel livre vous sauvez?
La Bible.
Oui. Oui.
La Bible, c'est la parole de Dieu.
Mais il y a plusieurs livres dans la Bible.
Je dirais, ah ben alors c'est très simple, je choisirais en premier d'abord l'évangile de Saint Marc, et en deuxième le livre des psaumes. Et la raison des psaumes, c'est que vous avez 13 genres littéraires qui reflètent en fait toute l'histoire et les chemins qu'on peut vivre dans notre vie au niveau de la prière. Il y a des cris, il y a des actions de grâce, il y a des psaumes de chemin, de cheminement, de pèlerinage, etc. Il y a 13 genres littéraires. Alors je dirais que ce serait les deux premiers textes. Bon, il peut y avoir d'autres livres, c'est sûr, on s'entend là-dessus, là. Mais là encore, je vais être marqué par le père Ménard à ce moment-là. Je garderai d'abord les écrits de mon fondateur, qui est un franciscain incroyable. Et c'est pas banal si j'ai écrit 2 livres déjà, Prier 15 jours, le volume 138, et 120 citations avec une vie offerte. Parce que cet homme, effectivement, est un des grands témoins, j'oserais dire quasi prophète du XXe siècle pour le Québec. Mais il est mieux connu ailleurs dans le monde qu'au Québec. Alors moi, c'est mon espérance qu'il soit mieux connu ici. Oui. Parce que c'est un ami de Dieu. Alors bon, il peut y avoir des romans, il peut y avoir d'autres livres, c'est sûr.
Oui. Mais Monseigneur Christian Rodembourg, vraiment, ça a été un plaisir de vous rencontrer. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Alors, je rappelle que Monseigneur Christian Rodembourg est l'évêque du diocèse de Saint-Hyacinthe et qu'il fait partie de la Société des missionnaires des Saints Apôtres. Merci d'avoir été à l'écoute de cet épisode de Vie religieuse aujourd'hui et demain, une émission proposée par la Conférence religieuse canadienne avec le généreux soutien de la Fondation canadienne de la vie religieuse. Un amical merci à Daniel Fortin à la régie. Je m'appelle Mathieu Lavigne. On se retrouve la semaine prochaine. D'ici là, je vous invite à rester à l'antenne de Radio VM.